Bonjour Pierre Vermeren.
Bonjour Christophe Lamar.
Historien, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, vous venez de publier un essai « Impasse de la métropolisation » dans la collection « Débat » de Gallimard. On se dit que vous feriez sans doute un excellent procureur parce que, à la lecture de ce livre, on a l'impression que le réquisitoire est d'autant plus sévère qu'il est argumenté et que vous vous appuyez sur des faits. On va déjà tenter de comprendre, Pierre Vermeren, quelle est cette métropolisation dont vous parlez et quelles sont les tendances de fond qu'elle a enclenchées selon vous.
Alors, ne pas confondre d'abord métropolisation et urbanisation. La France est un pays urbanisé depuis longtemps maintenant, depuis la guerre au moins pratiquement. Et au fond, la métropolisation, c'est un phénomène assez récent de transformation des grandes villes, d'abord de Paris, puis des grandes villes de province depuis une vingtaine d'années, en grands centres tertiaires, avec abandon de la production et donc départ des classes ouvrières qui étaient dans les grandes villes puisque c'était les grands lieux de production, pas seulement de consommation. Et donc il s'ensuit une transformation à la fois de l'économie et une transformation du paysage social de la France dont, à mon avis, le trait le plus saillant, c'est la séparation géographique, physique, entre les classes sociales, les élites vivant essentiellement dans les grandes métropoles, dans les métropoles, aux côtés de populations nomades diverses, touristes, étudiants, immigrés, expatriés, etc. Et le reste de la population française, à peu près la moitié, vit dans ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la France périphérique, que ce soit d'ailleurs des campagnes ou des villes petites, moyennes ou grandes parfois, qui sont notamment des villes en crise post-industrielle.
Vous rejoignez en cela le constat fait par Christophe Guilluy, qui est géographe, qui a d'ailleurs popularisé le thème de France périphérique. Il y a quoi, Pierre Vermeren, de France, ou ce serait plutôt un 4 quarts aujourd'hui, cette France-là?
Je crois qu'on peut parler d'un 4 quarts, effectivement, avec des poids sensiblement similaires au niveau démographique, puisque les métropoles, ça n'est jamais qu'un gros quart de la population, mais des poids très divergents au point de vue de la production. Alors les métropoles d'abord, qui produisent presque la moitié de la richesse nationale avec un quart de la population et sur une minuscule partie du territoire. Ensuite, ce que j'appelle pratiquement le peuple des banlieues, en tout cas des zones pavillonnaires qui s'étendent parfois sur des très grandes surfaces autour des métropoles. Alors celles-ci, bien sûr, sont rattachées, ces banlieues pavillonnaires, on peut les trouver partout. On les trouve évidemment autour des villes, qu'elles soient très grandes comme les métropoles, voire moyennes, puisque une grande partie des Français ces 40 dernières années ont déménagé, sont allés s'installer à la périphérie. Le troisième quart, ce sont les villes petites et moyennes, qui souvent, parfois très petites, mais rassemblent quand même un quart de la population. Et puis le petit quart de la population qui vit dans les villages, c'est-à-dire dans les communes de petite taille, de moins de 2000 habitants, mais qui occupent l'essentiel du territoire. Donc tout ça fait un ensemble assez hétérogène et avec un problème manifeste de circulation, puisque entre ces espaces, même si on a toutes les infrastructures nécessaires en France, on circule physiquement et socialement assez peu au fond.
Vous, dans votre livre « Impasse de la métropolisation », on a le sentiment que cette élite traverse la France sans la voir. Elle prend le TGV à Paris, elle va à Lyon, elle prend l'autoroute et il y a ces barrières sur les autoroutes qui sont finalement autant de murs physiques.
Ah oui, c'est vrai, quand on y pense, si vous voulez, ça n'a pas du tout été fait pour ça, puisque ça a été fait au contraire dans un esprit de vitesse et de rapprochement. Mais en réalité, ces grandes infrastructures construites depuis les années 70, que ce soit les TGV qui sont en voie pleine, c'est-à-dire qu'ils sont coupés par des barrières de leur paysage, enfin de leur entourage, idem pour les autoroutes, ce sont en fait à la fois des infrastructures qui unissent le peuple des métropoles, si on peut dire, mais qui le coupent totalement de l'environnement extérieur. Et donc ça crée, il faut imaginer la France comme une sorte de petit casier isolé par ces grandes infrastructures, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les métropolitains, donc les habitants des très grandes villes, 20 à 30% de la population, vivent entre eux au fond, se rejoignent d'une métropole à l'autre. On le voit très bien dans le phénomène des informations télévisées. Quand on veut savoir ce qui se passe dans le sud-ouest, on envoie un correspondant à Bordeaux. Quand on veut savoir ce qui se passe sur la Côte d'Azur, on envoie un correspondant à Marseille. Et en dehors de catastrophes climatiques ou autres, il y a une sorte de monde rétréci autour de ces grandes agglomérations et de leurs populations privilégiées. privilégiés, ça ne veut pas dire qu'ils font rien. Ils travaillent beaucoup, ils gagnent beaucoup d'argent, mais du coup, ils n'ont plus besoin tellement du reste du peuple dont les activités de production, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie, ont été très fortement réduites.
Ce que l'on pourrait appeler la sécession des élites, ça fait penser à l'historien américain Christopher Lash, qui l'avait écrit dans les années 70. Ça fait penser plus près de nous à Christophe Guillouis. Je reviens encore à lui parce que vous le citez dans votre ouvrage. En fait, ce sont deux mondes qui ne se voient plus et donc qui ne se regardent plus.
Oui, et il faut souligner, si vous voulez, le caractère tout à fait neuf de ce phénomène et ses conséquences. Le caractère tout à fait neuf, c'est que jusqu'aux années 60, 70, les élites françaises, comme partout, elles vivaient au milieu du peuple. Physiquement, elles ne vivaient pas comme le peuple, mais elles vivaient au milieu, à proximité, dans les villages, dans les petites villes, dans l'ensemble du territoire, parce que les usines étaient réparties partout, parce que les terres étaient possédées partout, parce que les fonctionnaires se trouvaient un peu partout. Alors vous me direz, c'est toujours le cas dans le cas des fonctionnaires, mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui une école ou une santé à deux vitesses, donc on pourrait en discuter. Et les conséquences de ce phénomène, c'est qu'il y a une coupure finalement qui s'est faite entre des élites que l'on pourrait qualifier de mondialisées, parce qu'elles vivent à la fois entre elles, entre métropoles, entre métropoles européennes aussi, hein, et puis avec des zones touristiques réservées, que ce soit en France ou à l'étranger, voire même hors d'Europe. Et puis un peuple que je ne qualifie pas de peuple français, parce que tout le monde appartient au peuple français, mais en tout cas une partie importante du peuple qui vit dans cette France périphérique et qui est en circuit fermé en quelque sorte. Un livre très intéressant il y a quelques mois avait dit le système productif aujourd'hui fait que les élites, pour la première fois, n'ont plus besoin du peuple. Et bien sûr, il y a des conséquences politiques, hein. Pour moi, la crise des Gilets jaunes, qu'on a connue, qu'on a analysée, qu'on a disséquée, c'est vraiment une révélation en quelque sorte, peut-être involontaire, mais en tout cas une révélation de cette grande fracture démocratique et sociale. Une autre, c'est le très faible taux de participation électorale auquel on a assisté lors des derniers scrutins, hein, comme si une très grande partie de la population ne se sentait plus concernée par la vie publique. Et c'est là qu'évidemment, il faut faire quelque chose parce que cette situation n'est pas très saine en réalité.
Pierre Vermeren, justement, et vous l'évoquez hein, dans votre livre, vous l'avez évoqué aussi d'ailleurs dans le précédent, La France qui déclasse, hein, les Gilets jaunes, une jacquerie au XXIe siècle. Cette situation est inédite dans l'histoire, elle peut avoir des répercussions fondamentales.
Ah, en tout cas, d'abord, il faut préciser que, contrairement à ce qu'on dit, si vous voulez, c'est un phénomène propre à la France et aussi aux sociétés anglo-saxonnes, notamment à l'Angleterre et aux États-Unis. On a vu qu'en Angleterre, aux États-Unis, il y a déjà eu des conséquences majeures, hein, l'élection de Trump ou le Brexit, ce ne sont pas des petits événements. La crise des Gilets jaunes non plus. Donc il y a des pays qui ont mieux réussi à maintenir leur industrie, à maintenir des activités sur l'ensemble du territoire, à créer moins d'inégalités, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, le Japon. Et donc je pense qu'on doit réfléchir dans cette direction pour à la fois désamorcer la crise sociale et les tensions qui sont bien réelles, hein, qui sont profondément incrustées, même on peut dire, et aussi désamorcer la crise politique qui s'annonce, parce que au fond, toute crise sociale et économique, elle finit par avoir des répercussions politiques. Et puisque on a analysé un phénomène en cours, on peut essayer au moins d'y remédier. Je crois qu'en France, l'État reste très puissant. Il n'est pas le seul acteur, loin s'en faut, mais il a quand même des moyens beaucoup plus importants que les autres pour essayer de rétablir des équilibres qui ont été cassés.
Le message est passé. Merci, Pierre Vermeren. Je vous rappelle que vous êtes historien
Merci.
et professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup.